Bonjour à tous et joyeux Noël. Il a été mentionné dans plusieurs prières et dans l'introduction de Charlie, un sujet qui, alors j'ai été très surpris, mais qui fait parfois polémique parmi les chrétiens. Alors pour moi c'est une surprise, hein, mais doit-on fêter Noël ou pas? Parce que finalement, Noël n'est pas dans la Bible. Le 25 décembre, nous le savons, n'est pas le jour de la naissance de Jésus. Simplement pour expliquer et qu'on se libère de cette question tout de suite, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme et donc l'Empire romain dans son entier est devenu chrétien. Le christianisme est devenu la religion officielle. Et donc il fallait faire quelque chose par rapport au paganisme. Et il y avait un culte qui était rendu à une déesse, la déesse de la lumière, où on fêtait ça au solstice d'hiver, donc quand les jours commencent à grandir de nouveau. Et les chrétiens ont dit, eh bien, alors que nous adorions une déesse païenne, celle soi-disant de la lumière, nous allons nous rappeler de cette date pour nous rappeler que la lumière est venue dans le monde, que Christ est venu dans le monde. Et simplement, donc, ils ont racheté, transformé cet événement pour pouvoir fêter et permettre à l'Église de se rappeler aussi régulièrement de la venue de Christ dans le monde, comme la Pâque nous rappelle sa mort et sa résurrection, tout simplement. Donc, Noël est quelque chose, très souvent, de familier pour nous, bien sûr, dans notre société, mais de mal abordé. D'un côté, nous pourrions dire que Noël est une fête commerciale qui n'est de toute façon pas biblique. Ce n'est que de l'hypocrisie et une mascarade où les gens veulent faire une bonne action, où on prétend passer un repas de Noël ensemble, où on doit supporter la belle-mère. On pourrait taper sur Noël pour dire que c'est le symbole dans notre culture du consumérisme, du matérialisme, de la débauche même et de tous les excès. De l'autre, je pourrais aussi dire que Noël, ce n'est simplement que l'anniversaire de Jésus, quand Marie est tombée enceinte et qu'elle a accouché, que c'est à propos de Jésus seul, que Noël nous parle du miracle de l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme, Dieu 100% Dieu est devenu aussi 100% homme et est né par une vierge comme un petit enfant et il a grandi parmi nous et il nous a révélé qui était Dieu. Alors les deux sont vrais, mais les deux ne sont pas incompatibles. Les deux aspects de Noël, ce que ça peut nous rappeler comme étant de plus absurde et parfois de mauvais dans notre culture, et en même temps, le plus grand espoir pour nous chrétiens, eh bien, ces deux choses-là sont Noël. Parce que Noël est familier, mais mal abordé. Noël est à la fois plus merveilleux, mais aussi plus menaçant que ce que nous l'imaginons. Ça nous révèle quelque chose de très sombre sur l'humanité, comme nous pouvons le voir lors des fêtes, mais aussi quelque chose de merveilleux pour nous, comme nous pouvons le voir dans les fêtes. Ces deux choses-là sont réunies à Noël. Et je voudrais, pour vous souligner ça, vous inviter à prendre le début de l'Évangile selon Jean. Et je lirai les 14 premiers versets qui sont le prologue, en omettant simplement les versets 6 à 8 qui nous parlent de ce qu'a fait Jean-Baptiste. Et là, je vais me concentrer simplement sur les deux aspects que Noël est à la fois plus merveilleux et plus menaçant que nous l'imaginons. Donc, Jean, chapitre 1, et je lis à partir du verset 1. « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains.
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Et je reprends verset 9. « Cette lumière était la vraie lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et conclusion magnifique. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. »
Jean aborde l'incarnation, la parole de Dieu qui s'est faite homme, sous l'angle de la thématique du contraste entre les lumières, la beauté, la perfection de cette parole et les ténèbres du monde. Et pour bien comprendre ce texte et bien comprendre Noël, il faut bien se rappeler de ces deux choses-là. Et la première que je vais souligner, donc, c'est que Noël est plus menaçant car cela nous rappelle que nous sommes dans un monde plongé dans les ténèbres. Je relis quelques versets. Verset 5, « Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. » Verset 10, « Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. » Un petit peu plus loin, au chapitre 3, Jean dit encore ceci, enfin c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Jean, et il dit ceci, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et Jean va déployer tout ce thème-là de lumière et ténèbres dans son évangile, même au chapitre 9 avec l'aveugle né et les pharisiens, Jésus qui redonne la vue à cet aveugle, au chapitre 17, etc. C'est un thème, la lumière qui est venue dans les ténèbres, que Jean chérit et avec lequel il veut nous faire comprendre à quel point Dieu est glorieux et à quel point nous avons désespérément besoin de lui. Parce que nous sommes dans un monde qui est dans les ténèbres. Et la Bible n'apporte pas les ténèbres comme étant simplement l'absence de lumière, simplement qu'il n'y a pas de lumière. Non, la Bible, quand elle nous parle d'un monde qui est dans les ténèbres, la Bible nous parle d'un monde qui est victime d'un mal actif en elle. Ce mal actif qui est le fruit de la révolte de l'homme contre Dieu. Ce qui nous a été rappelé aussi au travers de plusieurs prières. Ce n'est pas simplement que l'homme soit que mauvais, si l'homme ne faisait qu'exclusivement le mal, ça fait bien longtemps qu'une guerre nous aurait tous tués, mais que l'homme étant mauvais aussi en lui, est incapable par lui-même de reconnaître la beauté et la bonté de Dieu. L'homme est aveugle parce qu'il est plongé dans les ténèbres à la beauté de Dieu. Et Jean nous rappelle que nous sommes plongés dans les ténèbres de l'aveuglement qui ont recouvert le monde, mais qui ont recouvert chacun d'entre nous. Et l'homme sans Dieu, la Bible décrit comme étant un homme qui est dans les ténèbres. Par conséquent, nous pouvons tout à fait réaliser que nous aimons des choses mauvaises. Nous pouvons tout à fait l'envisager. Et l'homme est capable de faire une autocritique sur lui-même. Heureusement. Mais on ne peut rien y faire. Je fais le mal que je ne veux pas faire, mais le bien que je voudrais faire, je n'y arrive pas. C'est le constat que l'apôtre Paul fait de l'homme qui est esclave du péché, qui est dans les ténèbres. C'est une autre image, esclavage,
aveuglement, être dans les ténèbres, tout ça nous rappelle que nous sommes dominés par le mal qui est en nous et qui nous empêche d'aller vers Dieu et qui empêche ce monde de rendre la gloire qui est due à Dieu. Dans notre culture, par exemple, l'aveuglement est essentiellement manifesté par l'idée que, certes, on fait des choses mal et bien, mais qu'on n'est pas vraiment perdu. Notre aveuglement chez nous se manifeste très fortement comme ça, je trouve. Nous ne sommes pas perdus. On croit plutôt que chacun doit vivre à sa propre lumière, qu'il doit chercher la part de lumière qu'il y a au fond de lui, parce que l'homme, croit-il, est fondamentalement bon, et que cette lumière qu'il trouvera au fond de lui l'aidera à se diriger entre le bien et le mal. Alors pourquoi donc Dieu aurait-il besoin de devenir humain pour vivre et mourir à notre place, si nous pouvons répondre aux exigences d'un bien et d'un mal que nous définissons nous-mêmes? Si c'est moi seul qui définis le bien et le mal, qui va trouver en moi la lumière dans le côté bon de ma personne, finalement, je n'ai pas besoin que Dieu vienne mettre la lumière pour moi. Je n'ai pas besoin que Dieu se révèle. Et je crois que la notion même d'incarnation, le fait que Dieu trinitaire, qui est un Dieu qui est esprit, se fasse homme, est quelque chose qui, aujourd'hui, dans notre société, pourrait totalement passer inaperçu. Dans le sens où, ok, Dieu se fait homme, mais je retrouve ça particulièrement inutile. Parce que moi aussi, je peux trouver la lumière en moi. Et de croire que la lumière est en nous est un symbole, une manifestation de ce monde dans les ténèbres. Le texte nous donne aucun espoir venant du monde. Car les ténèbres ne peuvent enfanter la lumière. Plus on sonde ce monde, plus on voit qu'il est dans les ténèbres. Il n'est donc pas question d'une lumière dans ce monde qui resplendirait, comme si nous pouvions dire « Allez, tous ensemble, nous, les êtres humains, on va se donner la main et on va décider d'arrêter de se disputer. Si on agit ensemble, on va faire du monde un meilleur endroit. » Beaucoup de chanteurs ont chanté cela. C'est le rêve de beaucoup de personnes, mais il suffit que l'on soit deux dans la même pièce pour que ça ne puisse pas se réaliser. Noël est plus menaçant car il nous rappelle que nous sommes dans un monde qui est plongé dans les ténèbres. Mais Noël est aussi plus merveilleux que ce que l'on imagine souvent, car il nous dit que la lumière, elle, est venue dans ce monde de ténèbres. Et Jean joue avec ce contraste. Jésus est la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean nous parle du miracle de l'incarnation que nous fêtons à Noël, non du point de vue de l'histoire, non du point de vue de ce qui se passe parmi les hommes, mais du point de vue de Dieu. Ce qui est intéressant quand on regarde les quatre évangiles, les quatre biographies que nous avons dans le Nouveau Testament à propos de Jésus, nous voyons Luc qui, lui, s'intéresse du côté de Marie. Et c'est comment la lignée de Marie fait venir Jésus. Matthieu, lui, c'est Joseph auquel il s'intéresse. Marc ne s'y intéresse pas trop. Lui, plutôt d'un point de vue prophétique, comment les prophètes avaient annoncé. Mais Jean, lui, commence le récit de l'évangile avant l'annonce faite à Marie, avant la nativité, avant les mages, avant les bergers, avant le voyage, avant même le début de la création du monde. Jean débute son récit avec « Au commencement, un Dieu ». un Dieu qui est créateur et qui, par sa parole puissante, crée. Et qui crée et qui règne et qui domine sur toute chose. Une parole souveraine et toute puissante. Et nous dit que cette parole s'est faite homme pour venir nous parler dans notre langage de qui est Dieu et répondre à notre plus grand besoin. C'est comme dans un épisode de la vieille série Columbo, qui passait à l'époque, ça ne passe plus maintenant, donc peut-être que les plus jeunes parmi nous ne connaissent pas, mais Columbo, c'était un inspecteur tout mal fagoté, qui ne ressemble vraiment pas à grand-chose, qui a un impair toujours de travers, avec un cigare puant, et il parle sans cesse de sa femme, qu'on ne voit jamais. Mais Columbo est un inspecteur de police, un lieutenant, je crois, extrêmement brillant. Et les épisodes de Columbo nous sont présentés toujours avec, au début, l'intrigue qui nous est révélée. On sait qui a tué qui. Il n'y a aucun suspense dans un Columbo. Mais ce que l'on admire en Columbo, c'est tout son raisonnement. Comment est-ce que lui va s'y prendre pour retrouver le meurtrier ? Eh bien, Jean fait la même chose. Il nous révèle l'intrigue. Jésus est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu parmi nous. Et maintenant, il veut que nous lisions tout l'évangile, tout son message, toutes les paroles et les actes de Jésus à la lumière de ce qu'il nous révèle de lui. C'est que les paroles et les actes de Jésus sont les paroles et les actes de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons comprendre la venue de Christ dans le monde. L'accomplissement du plan de Dieu. Et ça lève partiellement le voile sur le mystère de la Trinité, où le Dieu qui existe de toute éternité en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père envoie le Fils, Fils qui vient sur terre, se fait homme et vient nous donner le message de l'Évangile, le message de Dieu, vient nous révéler pleinement qui est Dieu et nous sauver. Et dans son plan de sauvetage, dans un monde qui est dans les ténèbres, Dieu avait laissé entrevoir jusque-là qui il était. Dieu avait révélé déjà beaucoup de choses à propos de lui. Mais ces choses étaient incomplètes, provisoires, comme l'anticipation d'une révélation plus excellente, plus glorieuse qui devait arriver. Et cette révélation totalement glorieuse, c'est l'incarnation. Que Dieu se fasse homme parmi nous pour nous révéler qui il est. Et l'incroyable application que fait l'apôtre Jean, c'est que Christ est la seule véritable lumière. Il est la vraie lumière qui est venue dans le monde, qui est la seule source de lumière donnée au monde qui est dans les ténèbres. En me préparant, j'ai repensé au psaume 119. Il y a une déclaration qui est merveilleuse, que nous chantons, que nous lisons souvent lors de nos cultes, qui dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Passage merveilleux, le témoignage de la création, de l'univers, de l'étendue et de la beauté, des perfections de la création nous permettent de découvrir, lève le voile sur la gloire de Dieu. Mais l'ensemble de l'univers, l'ensemble des merveilles qu'il contient est incomparable à la révélation que nous donne Jésus de la gloire de Dieu. L'ensemble des galaxies, l'ensemble des êtres créés, l'ensemble des lois de l'univers, de la complexité, des mystères de la vie, de toute la beauté que Dieu nous révèle dans la création est incomparable par rapport à l'excellence de la révélation que Jésus nous apporte.
un petit bébé au crâne si fragile qu'on pourrait le broyer d'une seule main, est venu révéler toute la gloire de Dieu. C'est le miracle de l'incarnation. C'est ce que rappelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il dit au début de sa lettre que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression de son être. C'est Jésus qui est le rayonnement parfait, total, la vraie lumière de qui est Dieu. Et cela sous-entend que sans Christ, on ne peut connaître Dieu. Sans lui, on ne peut être sauvé par Dieu. Jésus disait lui-même, celui qui renie le Fils renie le Père. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un même Dieu, seul, unique et trinitaire. La lumière n'est pas en nous, mais elle est venue parmi nous pour nous révéler pleinement qui est Dieu et ce qu'il veut, nous sauver de nos ténèbres. Maintenant, dans une deuxième partie, je voudrais tirer quelques applications avant de conclure. La première application que je trouve intéressante avec ce texte, c'est de nous rappeler que Noël, fêter Noël, est un moyen de grâce, simplement. Un moyen que nous pouvons utiliser, que Dieu nous offre dans sa miséricorde, pour nous rappeler non seulement l'état de notre monde, mettre en lumière les ténèbres, nous rappeler qui nous sommes et à quel point nous avons besoin que Dieu vienne mettre sa lumière au-dedans de nous, mais qui nous rappelle aussi la gloire de Jésus-Christ, la lumière qui est venue dans les ténèbres pour nous sauver. La deuxième application, c'est que à Noël, nous devons nous rappeler que la naissance de Jésus nous promet une nouvelle vie en lui. Et c'est ça le plus grand des cadeaux qu'on puisse avoir. Essayez de braquer une lampe de poche ultra puissante dans les yeux d'un aveugle. Est-ce que pour autant il verra ? Et la parole de Dieu est claire, nous sommes aveuglés. Nous ne pouvons voir sa lumière. Et c'est en ce sens que Jésus est la véritable lumière. C'est qu'il nous rend la vue. Il nous donne une nouvelle vie. Il nous rend capables de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous rappelle Jean. Il n'est pas simplement venu nous donner des informations, il est venu opérer une transformation en nous. Il est venu chasser les ténèbres. Seule la lumière pouvait le faire et Christ est venu chasser les ténèbres en nous. Voici ce que nous rappelle Noël. La lumière est venue dans nos ténèbres pour les chasser. Troisième application, c'est que à Noël, nous devons nous rappeler que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise des ténèbres et que Dieu ne se cache pas dans les ténèbres. Dieu n'est pas caché dans les ténèbres. Le chercher en soi, le chercher dans ce que le monde nous propose, le chercher dans les mystères de la création, le chercher à tâtons, comme un aveugle, dans le noir, cela ne sert à rien. Dieu se trouve, lui, dans la lumière, dans la révélation que nous a donnée Jésus-Christ. Et dans ce monde, en nous-mêmes, on ne trouvera jamais le repos du cœur, la paix à laquelle aspire tout être humain. Si nous cherchons dans les ténèbres cette paix-là, si nous cherchons dans les ténèbres
une lumière, alors nous récolterons qu'anxiété, frustration, convoitise, blessure, déception, colère, amertume, etc. Dans les films d'horreur que je regardais quand j'étais jeune et que je voulais me faire des sensations, il y avait une scène qui était particulièrement angoissante. Vous savez, c'est la scène typique où le héros est dans le noir et il a une lampe de poche qui vacille. Et il a peur de se retrouver dans les ténèbres. Et en passant la lampe de poche, notre grande crainte, c'est qu'il pointe la lumière sur le monstre et qu'on soit surpris de voir le monstre qui va lui sauter dessus. Eh bien, quelque part, Christ étant la lumière du monde est venu dans le monde pour éclairer le monstre qui est en nous, pour éclairer ce qui est tapis au fond des ténèbres. Et l'invitation de Jean est de croire que Christ est venu et la seule source de lumière pour tous les hommes, et de croire et d'accepter de regarder là où il pointe la lumière, de reconnaître les ténèbres qu'il y a en nous et d'accepter qu'il vienne chasser ces ténèbres, de recevoir son pardon, qu'il vienne purifier, qu'il vienne prendre sa place au sein de mes ténèbres pour qu'il rayonne lui-même de sa lumière. Dernier point en guise de conclusion. À Noël, nous devons nous rappeler que c'est Dieu lui-même qui nous permet de voir sa gloire. L'endroit où nous portons nos regards n'est jamais dissociable de ce que nous sommes en train de nourrir. L'endroit où on regarde est l'endroit où l'on espère trouver la solution. L'endroit où on regarde n'est jamais dissociable de ce que nous sommes et de ce que nous sommes en train de nourrir. Le théologien John Owen disait « Personne ne verra jamais la gloire de Christ s'il ne l'aperçoit pas déjà un petit peu par la foi, ici-bas. » Et nous sommes invités aujourd'hui, par le témoignage des Écritures, à découvrir qui est Jésus et à redécouvrir sa gloire. Et il n'y a que deux endroits, finalement, où nous pouvons porter nos regards. Soit à la lumière, soit aux ténèbres. Et Dieu, en envoyant Jésus dans le monde, nous invite à regarder à lui pour contempler sa gloire. Et c'est ce que dit l'apôtre Jean. Il dit « Nous avons contemplé sa gloire ». Il ne dit pas « Nous avons constaté, nous avons côtoyé, nous avons connu la personne de Jésus. » Il dit « Nous avons contemplé sa gloire comme étant celle du Fils unique de Dieu. » Jean veut nous dire à quel point il a été émerveillé de passer du temps à côté de Jésus, de voir ses paroles et ses actes. Et qu'en le découvrant, il a vu la pleine gloire de Dieu et il a pu la contempler. C'est un appel à l'adoration, un appel à redécouvrir en Jésus toute la gloire révélée de Dieu au milieu des ténèbres. Il y a, je n'ai pas le temps, mais un merveilleux parallèle dans ce texte avec ce qui s'est passé pour Moïse dans le livre de l'Exode, quand Moïse a fait cette demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et que Dieu a dit à Moïse, « Tu dois d'abord te cacher et je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Et finalement, c'est Jean et les apôtres qui ont pu voir dans la personne de Jésus toute la bonté, toutes les perfections de Dieu. La lumière, Jésus, se contemple. Et je crois que nous sommes invités à Noël à demander à Dieu l'émerveillement de nouveau de la présence de Jésus, d'être ébloui par lui, ébloui par ses perfections, par qui il est. Et si nous faisons que rarement l'expérience de la contemplation de Jésus à laquelle nous sommes invités, ce n'est dû qu'à notre oisiveté ou au fait que nous cherchons le repos, que nous cherchons ailleurs que dans la lumière, ce que Dieu veut nous donner. Nous croyons que des choses du monde ou qu'en nous-mêmes, nous allons pouvoir trouver les ressources et la lumière, alors qu'elle n'est qu'en Jésus. Nous devons désirer de plus en plus avoir sa glorieuse lumière dans nos vies présentes et de moins en moins désirer ce qui vient des ténèbres et ce qui m'en éloigne. Voici ce à quoi Christ nous a appelés en venant dans le monde, à venir à lui, à venir recevoir de lui la lumière, à venir recevoir de lui le pardon, la purification et recevoir tout de Dieu. Et il y a un dernier verset avec lequel je voudrais vous laisser, qui est magnifique. Une phrase que Paul dit à propos de la lumière de Dieu, de sa gloire, sa resplendeur. Oui. Car Dieu qui a dit, je vous lis dans 2 Corinthiens 4, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller dans nos cœurs la lumière pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez à quel point Christ est beau, digne d'adoration, à quel point il est glorieux, désirable, puisque c'est lui et lui seul qui nous révèle toute la gloire de Dieu. Et c'est lui seul qui nous révèle que Dieu peut nous sauver. Il est la seule preuve que Dieu nous aime au point de nous sauver. Et c'est ce que Jean lui-même dira dans son épître, un petit peu plus loin, où il dit « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » 4 implications pour nous à Noël. Nous rappeler que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise des ténèbres. Nous rappeler que la lumière de Jésus, sa naissance, la personne de Jésus, nous permet d'avoir une nouvelle vie en lui. Que fêter Noël est un moyen de grâce duquel nous devons profiter pour nous rappeler de contempler qui est Jésus et nous rappeler à quel point Dieu est glorieux. Amen.